Ma recherche se base donc sur les manuels scolaires de français en Italie et remet en cause tout un système scolaire et politique linguistique. J'aurais pu vous parler aujourd'hui de cette politique linguistique italienne peu claire pour laisser l'espace aux dialectes italiens et aux langues minoritaires présentes sur ce territoire, ou encore de quelle image de la France est représentée dans les manuels de première année des lycées, puisqu'on y retrouve une France interculturelle au travers des personnages, tout comme par exemple Célina, jeune étudiante créole qui arrive avec sa mère sur le territoire métropolitain dans le manuel de À vrai dire. Toutefois, j'estime que les manuels des linguistiques de dernière année se rapprochent plus à un autre sujet, car il s'agit en réalité d'anthropologie littéraire créée par des auteurs italiens pour un public italien. Je rappelle alors le titre du colloque « Rhétorique de la, tolérance dans les littératures et le cinéma francophone ». Quel dialogue interculturel est présent dans ces manuels ? Je souligne avant tout que ma recherche se base dans le Latium de l'Italie où je travaille, mais surtout, quel est le seuil de la tolérance dans ces manuels ? Mon discours commence avec les instruments qui vont souligner la tolérance des auteurs, va se poursuivre avec les enjeux des rejets des auteurs pour aboutir à ce que j'appelle l'obstination de ses propres auteurs. On va commencer par la tolérance et ses instruments. Super. Donc, tout d'abord, on observe un large éventail des thèmes traités dans ces manuels scolaires. Du point de vue politique, qui reprend que ce soit la politique et l'histoire de la France avec Napoléon Ier, Napoléon III, les monarchies, les républiques. On continue avec la décolonisation de l'Indochine, il y avait aussi la décolonisation de l'Algérie, très bien, merci. Pour arriver à mai 68, à la place de la France et du français dans le monde, sans oublier bien sûr les deux guerres mondiales. Du point de vue économique, donc, la France qui se relance avec les révolutions industrielles, la révolution du fer et du charbon, celle de l'acier et de l'électricité. Et on arrive aussi au point de vue intellectuel avec les différentes idéologies que peuvent apporter les idéologies linguistiques, les idéologies culturelles, les idéologies artistiques, tous ces mouvements qui peuvent être reliés entre eux pour faire comprendre donc aux étudiants pourquoi tel texte est-il créé à telle époque. Donc exactement, c'est ce que je disais, le point de vue culturel, donc par exemple Monet, etc. L'histoire des arts, pour arriver donc à la place de la France et du français dans le monde. Donc, ces auteurs semblent disponibles, ouverts même, à une littérature francophone, à tout ce qui est autre que la littérature italienne. Mais est-ce réellement le cas ? Si on observe le poids des thèmes par rapport aux classiques, dit français classique entre guillemets, on va parler donc de Chateaubriand, Zola, tous ces classiques-là. Écriture, par exemple, qui est l'un des manuels que j'analyse, propose deux unités sur Chateaubriand. Deux unités qui vont être abordées aussi pour tout ce qui est la littérature j'oublie les mots aujourd'hui pour tout ce qui est pour le classicisme, alors que la littérature québécoise, la littérature africaine, la littérature du Maghreb et du Proche-Orient possèdent pour chacune d'entre elles une page, une simple page d'autobiographie d'auteur accompagnée d'un seul extrait littéraire, tout en sachant que Saint-Gore, dont on nous a parlé hier, se subdivise, lui, une page de bibliographie avec Césaire, puisqu'ils sont considérés comme les fondateurs de la littérature africaine et de la négritude. Un seul des manuels va proposer, je ne sais pas si je l'ai mis en... Ouais, un seul manuel va proposer donc la carte de la littérature francophone. Sur les quatre manuels que j'ai, j'ai analysé quatre manuels. Donc le premier, Écriture, le deuxième, Kaléidoscope, Beaubourg et Rive Gauche. Et un seul manuel propose la carte donc, de la littérature francophone. Quel genre de définition donne-t-on donc à, je vais prendre comme exemple la négritude pour arriver ensuite à... Non, je vais m'arrêter à la négritude pour cet exemple-là. Donc, l'un des manuels nous dit qu'il s'agit face au racisme blanc et à l'infériorité du noir qui l'entraînait de clamer haut et fort la dignité du nègre, et il souligne, et pardon, il ne souligne pas en caractère gras, dignité du nègre, et de son continent d'origine, l'Afrique en gras, de proclamer et de défendre les valeurs culturelles du monde noir et d'encourager les noirs à rester ou à devenir eux-mêmes, à conserver ou à reconquérir leurs valeurs. Nous y avons donc dans un autre manuel, nous y apprenons que l'anthropologie de la nouvelle poésie nègre et malgache que publie Léopold Sédar Senghor fait partie officiellement de ce qui a été appelé la littérature de la négritude. L'initiative de l'emploi de ce concept se revient ici aussi à Aimé César, qui nous dit que la négritude est la simple reconnaissance d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire ou de notre culture. Donc un seul manuel explique réellement la définition selon Césaire. Je voulais voir si on avait... Non, je ne l'ai pas mis. Dommage. Donc je voulais vous montrer la page, l'unique page de Senghor et César qui a été faite donc pour expliquer tout cela. Donc tout ça pour dire qu'il y a très peu sur la littérature francophone dans les manuels scolaires de l'autre côté du continent, ce qui est bien dommage. Donc malheureusement, je me suis concentrée sur le peu que l'on possède au niveau des autres sujets. Et le premier va être donc des enjeux de l'intolérance. Pour expliciter cette notion, j'ai choisi trois sujets: Napoléon, la Deuxième Guerre mondiale et finalement l'Italie avant tout. Pourquoi ? Parce que, pour expliciter donc Napoléon, si dans un premier temps, on nous a dit dans Écriture que Chateaubriand fait naître Napoléon un an plus tôt, quand la Corse n'était pas française, pour insister sur les origines étrangères de Napoléon, le même manuel scolaire, en revanche, souligne que Napoléon Bonaparte est né en Corse et que Gênes venait de céder un an plus tôt l'île à la France. Donc, quelles sont les origines de Napoléon ? On se le demande bien, puisque personne ne veut se prendre la responsabilité de ses origines. L'hostilité donc de l'âne et l'hostilité envers ce personnage historique, les manuels nous expliquent toutefois que cette hostilité était précédée d'une certaine admiration lors de son arrivée sur le territoire italien, puisque l'appel nationaliste des soldats français les exhorte à un orgueil national et à la revanche. Mais lorsque Napoléon se voit confier le commandement de l'armée d'Italie, on retrouve à nouveau les caractères gras, donc pour noter selon eux l'importance de l'épisode, et qu'il devient roi d'Italie avec la bataille de Marengo. Dans un premier temps, les Italiens l'accueillent en libérateur, entre guillemets, et il bénéficie du soutien des patriotes italiens admirateurs de la Révolution française. Par la suite, les premiers manquements, et les premières désillusions se notent. Bonaparte sacrifie donc la République de Vénétie aux Autrichiens, avec le traité de Conformio. La France, par son besoin d'argent, impose lourdement les Italiens. Et les auteurs insistent sur les graves pillages de Bonaparte. Il s'agit d'un peuple trahi, écrasé par le tout-puissant Bonaparte, qui ne montre aucun signe de tolérance envers ce peuple et cette culture italienne. Cette rancœur se voit clairement dans ces manuels et détermine le choix des auteurs traités par ces manuels. Par exemple, Chateaubriand, qui écrit un véritable pamphlet contre Napoléon, hostilité partagée pour Madame de Staël, son amant Benjamin Constant, et par Hugo, qui dénonce Napoléon dans Les Châtiments. Il y a donc un rejet du personnage de Napoléon. La Deuxième Guerre mondiale. Avant tout, le titre de cette partie, la Seconde Guerre mondiale, vue du côté français, semble vouloir nous dire que les Italiens donnent le point de vue des Français face à cette guerre, et qu'ils respectent ce point de vue selon eux. Pourtant, ce que l'on trouve sur ce sujet se limite à l'occupation, j'espère avoir apporté tout ça, Ah, j'ai oublié de dire que oui, parmi tout l'éventail que nous propose le manuel scolaire, il y a un dossier sur la femme de lettres. Là, de la même manière qu'on a un simple dossier sur la francophonie, la femme possède un simple dossier pour elle. Non, je ne l'ai pas porté. Si, non, la France libérée. Si, l'occupation, c'est avant. Donc, la guerre se limite à l'occupation. Mais quelle occupation ? L'occupation du régime de Vichy. Donc, on souligne bien que les, sans jamais citer Hitler et les nazis, ils annoncent à ses citoyens que leurs libertés personnelles seront limitées et qu'un régime autoritaire remplacera désormais la démocratie. Donc, pour eux, la Deuxième Guerre mondiale, selon les Français, est Vichy. La libération, deuxième point important de cette Deuxième Guerre mondiale, avec quoi ? La France libérée, fin de la guerre, qu'on retrouve surtout au travers des photos et les mots de Simone de Beauvoir. Donc Simone de Beauvoir qui évoque le 24 et 25 août 1944. Je me rappelle l'étrange et brûlant silence des rues où patrouillaient encore quelques blindés et où sifflait de ci de là une balle. Un tireur particulièrement obstiné tenait la rue du Four sous son feu. On traversait en courant entre deux rafales. Bref, tout ça pour arriver à la fin du discours qui dit que de temps en temps un coup de feu éclatait, un tireur de toit, quelqu'un s'écroulait, on l'emportait, mais personne ne s'émouvait de ses remous, l'enthousiasme éteignait la peur, finalement la joie, la libération. Donc, pour les auteurs de ces manuels, la Deuxième Guerre mondiale égale régime de Vichy égale libération. Toutefois, le rôle de l'Italie dans la Deuxième Guerre mondiale n'est pas des moindres, notamment avec Mussolini et sa dictature fasciste. Pourtant, la rubrique aborde à peine la présence de l'Italie en guerre. L'Italie déclare la guerre à la France pour récupérer le comté de Nice, la Corse et la Tunisie. Les auteurs d'écriture font l'impasse sur ces relations franco-italiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'entre autres, les deux pays se sont affrontés lors de plusieurs batailles. Kaléidoscope est l'unique des manuels qui va souligner l'occupation italienne à Nice. Voilà. Le document débute par une brève introduction sur le positionnement de l'Italie pendant la Première Guerre mondiale, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il explique ainsi l'alliance de l'Italie fasciste avec l'Allemagne d'Hitler, sans jamais nommer Mussolini et le Balilla, donnant lieu à l'occupation italienne de Nice, autrefois ville italienne. Le reste du document est texte autobiographique relatant une simple conséquence de l'occupation, le marché noir. Puis une nouvelle accusation pour la France. Puisque la France est intervenue en Italie en tant que puissance catholique contre la jeune République mazzinienne à Rome le 9 février 1849, il souligne ainsi l'entrée de la France sur le territoire italien. Par la suite, les auteurs mettent en avant une défaite française. Le 30 avril, les forces de Garibaldi, venues de toute l'Italie, infligent une première défaite aux Français à Velletri. Bien que cette défaite n'arrête pas les forces françaises qui battent Garibaldi à Rome, la politique de Napoléon III paraît apparaître confuse, je cite, car il poursuit les libéraux en France et il les appuie à l'étranger, en appuyant Cavour. A posteriori, le plan de Napoléon III apparaît plus clair, il voulait obtenir une Italie modérée et neutraliser les extrémistes. Alors, la question qui se pose en fait est pourquoi faire ces impasses. Ils insistent sur les points négatifs de la France. Ils insistent sur. Et puis ils font les impasses sur ce que pourraient être les points importants, à mon avis, sur le rôle de l'Italie pendant la guerre. Effectivement, si on interroge des Italiens dans la rue, on demande « Alors, qu'est-ce que vous pensez de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ?» Personne ne nominera Mussolini. Plus que ça, pour certains d'entre eux, il est même vu comme encore le personnage le plus important qui a créé des choses fantastiques pour Rome. Monuments importants, entre autres. Des hôpitaux, etc., etc. Je suis restée d'ailleurs la première fois un peu la bouche ouverte lorsque je m'en suis rendue compte. Et tout ça se retrouve malheureusement dans les manuels scolaires. Pourquoi les manuels scolaires? C'est là où on essaye de montrer, on doit éduquer, l'école est faite pour éduquer à la tolérance, à l'indulgence, à le vivre ensemble, puisque nous sommes arrivés en Europe maintenant, et que l'Italie fait partie de l'Europe, et que l'Europe prône le vivre ensemble. Pourquoi encore aujourd'hui est-ce qu'on puisse encore trouver ce genre de situation dans des manuels scolaires? Là est ma question. Je vais conclure avant avec une dernière chose. Lorsque je disais l'Italie avant tout, puisque ces manuels soulignent donc les erreurs de la France, pour mieux souligner les bienfaits de l'Italie. Donc chaque situation est bonne pour rappeler les liens entre les auteurs et l'Italie. Par exemple, Chateaubriand est nommé secrétaire d'ambassade à Rome en 1803 et il rédige les voyages d'Italie. Madame de Staël est condamnée à l'exil pendant 10 ans à cause de son opposition à Napoléon. Elle voyage aussi en Italie. Zola est considéré fils d'Italien et Stendhal est défini comme un Italien et non comme un Français. Les textes, le choix des textes littéraires. Où on observe des choix, je les appelais incontournables, parce que tels que Notre-Dame de Paris, Les Misérables, etc., etc. Ou bien on retrouve une deuxième catégorie qui se compose d'extraits liés uniquement à l'Italie, comme Lorenza, Caprice de Marianne de Musset, etc. Un autre point important, bien évidemment, sur lequel je ne peux faire... je ne sais pas où je l'ai mis, je vais le retrouver, c'est justement sur, voilà, je crois que c'est ça, ouais, sur la religion. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le territoire italien, plus que sur le territoire italien, on est sur le territoire du Latium, donc il y a le Vatican, je n'accuse personne bien sûr. Puis toujours dans Kaléidoscope, on nous confirme que le romantisme est une période profondément marquée par le christianisme. Donc on va noter l'importance de la religion et le choix des textes et des auteurs en fonction de leur religion. Donc si Chateaubriand va être marqué par le christianisme, d'autant mieux pour pouvoir le souligner, pour pouvoir le mettre en avant. Les héros luttent donc contre les forces du mal, c'est pourquoi beaucoup cherchent à se réfugier dans la religion. Exemple, alors que le dernier siècle a offert une réunion effrayante de talons contre la religion, le 19e siècle commence d'une manière tout opposée. Des hommes doués d'un véritable génie, sous tout pénétraient de l'importance de la religion et de sa vérité. Cette affirmation, publiée au début de la Restauration dans la revue Le Conservateur, est certes partiale, mais contient tout de même un fond de vérité. Toutefois, la Révolution a placé l'Église dans une situation difficile. Il faut affronter la question des libertés civiles et politiques. Ce dilemme ne finit par partager les catholiques en deux factions. Les traditionalistes, d'une part, contre-révolutionnaires et fidèles au pacte indissoluble entre le trône de l'Église, refusent les réformes constitutionnelles et soutiennent des régimes autoritaires. De l'autre, une minorité combative de catholiques, bien souligné minorité combative, donc un caractère gras, pour donner l'importance donc que les auteurs veulent dire. C'est pas donc minorité combative des catholiques, séduite par des idées libérales et favorables à la séparation de l'Église et de l'État, et la liberté de presse et de l'enseignement. Tout ça donc pour souligner ce que l'on peut trouver dans les manuels scolaires de l'autre côté du territoire. m'appelle un peu le j'accuse de Zola dans cette situation. Je ne veux pas accuser donc mes compatriotes pour ça, mais je tiens à souligner que pour cette situation, la chose la plus importante n'est pas de montrer quels sont les différents points qu'ils ont, mais pouvoir aider à trouver une solution pour pouvoir améliorer le système scolaire linguistique italien. Elle a été la démarche de ma recherche. Démarche qui s'est avérée réellement difficile lorsque j'ai commencé à lire ce genre de choses, parce qu'on me dit que le chercheur doit rester et focaliser et être objectif. Mais dans ce cas-là, il m'a été très difficile, je l'avoue, de rester objectif. Par conséquent, j'ai été accusée brièvement lors d'une rencontre. Mais comme je suis qu'à mes débuts, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'avoir pu me confronter encore à 100% sur ce sujet.
Voilà,
j'achève ainsi ma...
Merci.